journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un revers, un camouflet pour la France. Hier, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par deux familles de djihadistes françaises détenues en Syrie, a condamné Paris pour n'avoir jamais examiné, jamais répondu à leur demande de rapatriement. William Molinier, vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Ce qui est condamné là, c'est la façon dont la France gère le retour de ses ressortissants partis rejoindre Daesh. Une doctrine qui n'était pas assez claire.
Absolument, la France paye une forme d'opacité car pendant longtemps le Quai d'Orsay a dit appliquer une politique de cas par cas. En fait, la diplomatie française a préféré laisser les familles entre les mains des Kurdes plutôt que de s'encombrer avec des rapatriements. Mais cette position s'est au fil des ans heurtée à celle des services de renseignement intérieur et notamment la DGSI, pour qui il est bien plus facile de suivre sur le territoire national ses profils pour prévenir d'éventuels passages à l'acte. Cet été, la doctrine française a discrètement changé. Ce colis Olivier Véran a lui-même reconnu hier en compte-rendu de Conseil des ministres.
On n'a pas attendu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer, puisque cet été, c'était au mois de juillet, la France a procédé au rapatriement de 16 femmes qui étaient au nord-est de la Syrie et d'une trentaine d'enfants. Ça veut dire que nous avons déjà fait évoluer les règles d'examen et de rapatriement des ressortissants français qui sont encore au nord-est de la Syrie.
Avec cette décision, la France va devoir faire preuve de plus de transparence à l'égard de ces familles de djihadistes. Hier, le Quai d'Orsay s'est déjà dit prêt à organiser de nouveaux rapatriements.
William Molinier.
Voilà, cet arrêt de la CEDH rendra-t-il systématique le retour des djihadistes? On en parlera tout à l'heure avec nos éditorialistes à 8h40. Préparez-vous à baisser le chauffage cet hiver et plus encore l'année prochaine. Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité vont augmenter de 15%.
Annonce hier d'Elisabeth Borne qui confirme le maintien du bouclier tarifaire en 2023. Sans lui, les prix auraient tout simplement doublé. Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, un chèque énergie sera versé à 40% des ménages, soit 12 millions de foyers, 200 euros pour les 20% les plus modestes et 100 euros pour les autres. Et dès aujourd'hui, près de 11 millions de foyers bénéficiaires des minima sociaux vont percevoir la prime inflation. Elle s'élève à 100 euros plus 50 euros par enfant à charge.
Pouvoir d'achat, énergie, le gouvernement a du pain sur la planche, mais n'en oublie pas pour autant la réforme des retraites.
Emmanuel Macron y tient, même s'il doit la faire passer en force. Arthur Delaborde, le chef de l'État, envisage même de l'intégrer dès cet automne au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Oui, selon nos informations, Emmanuel Macron envisage clairement de faire passer la réforme des retraites dans le budget de la Sécu. Concrètement, un amendement pour relever l'âge légal ou allonger la durée de cotisation pourrait être inclus dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui arrive le 20 octobre en séance à l'Assemblée. Hypothèse qui fait bondir les oppositions, d'autant que dans le même temps, le chef de l'État n'exclut pas de brandir l'arme du 49-3 pour faire adopter le texte, sauf si le gouvernement est renversé. Coup de force, dénonce le chef de file des députés socialistes, Boris.
Quelle concertation préalable est possible dans ces cas-là? Quel respect du dialogue social, du débat parlementaire pour un sujet qui était un sujet important? Non, ce n'est pas admissible de fonctionner de cette manière-là et à toute force vouloir en réalité imposer une réforme que les Français ne veulent pas.
Colère aussi exprimée presque dans les mêmes termes par les communistes, les insoumis et le Rassemblement national. Et même s'ils plaident pour une réforme des retraites, les Républicains préviennent qu'ils ne voteront pas le budget de la sécurité sociale dans ces conditions. L'idée est aussi accueillie froidement dans la majorité, plusieurs poids lourds de la Macronie y sont opposés.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Il est 8h05, l'actualité à l'étranger avec la démission hier soir de la première ministre suédoise Magdalena Andersson.
Contrainte de reconnaître la défaite de son camp après des résultats quasi définitifs et la victoire de l'alliance entre la droite classique et le parti populiste des démocrates, 176 sièges contre 173 pour le bloc de gauche. Le conservateur Ulf Kristersson, qui devrait devenir le prochain chef du gouvernement, écrit « Merci pour la confiance, maintenant nous allons remettre de l'ordre en Suède. »
Nous revenons en France, en Gironde. L'incendie est contenu, mais pas fixé.
Et on retrouve sur place à Sainte-Hélène, dans le Médoc, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour.
3700 hectares sont partis en fumée. C'est énorme. Plus de 1800 personnes évacuées depuis lundi. Bon, heureusement, ce matin, il y a quand même de l'espoir. La situation s'améliore, hein, Benjamin.
Oui, tout à fait. L'incendie n'a pas progressé cette nuit. C'est la très bonne nouvelle. Les hommes du colonel Éric Florençon, qui est en charge des opérations de secours, ont notamment bénéficié d'une nette amélioration des conditions météo.
On a perdu plusieurs degrés, ça c'est important. Le taux d'humidité qui remonte, c'est aussi important. Quasiment 90% de taux d'humidité, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un tel taux. Il y a eu très peu de vent, voire pas de vent pendant la nuit. Et c'est une première depuis plusieurs jours. Donc le travail de la matinée, ça va être sécurisé, continuer à sécuriser toutes les lisières. De façon à profiter de cette petite accalmie conditions météo.
Alors, signe de cette humidité, cet épais brouillard qui recouvre le massif ce matin. À Sainte-Hélène, où la moitié du village a été évacuée, cette accalmie est bienvenue, alors que le maire Lionel Montillot sent bien la lassitude et la colère gagner la population.
Nous, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut gérer la logistique. Difficile parce qu'on est confronté à l'inconnu, la colère, l'incompréhension des gens. Et puis on voit son massif, on voit sa forêt fondre. Et c'est désolant quand on est comme moi, et on est nombreux à être comme moi, un enfant de Sainte-Hélène. Quand on voit notre forêt être détruite comme ça, on est triste et en colère. Oui. Une récurrence des événements qui use.
Et dès que le brouillard se sera levé, les moyens aériens, 6 Canadair, 3 Dash, 2 hélicoptères bombardiers d'eau vont reprendre leur rotation avec pour objectif de fixer enfin cet incendie.
Merci Benjamin Péter en direct de Sainte-Hélène pour Europe 1.
Enfin, sensible, s'abstenir. C'est le meurtre de plusieurs personnes en direct que nous allons visionner. Ça, c'est la mise en garde de l'avocat général au procès de l'attentat de Nice.
Ah oui, la vidéoprotection de la ville de Nice, cette nuit du 14 juillet 2016, va être diffusée aujourd'hui. Les images sont bouleversantes. Leur diffusion avait d'ailleurs fait l'objet d'âpres débats la semaine dernière. Mais pour beaucoup de parties civiles, il est important que l'horreur soit montrée durant le procès. Frédéric Michel, vous êtes en direct avec nous. Bonjour, vous suivez ce procès devant la Cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1. Racontez-nous ce qu'on voit sur ces vidéos.
Les images, toutes les images de cette nuit d'horreur. Il est 21h34 ce 14 juillet lorsque Mohamed Laouesh Boulel apparaît sur les premières vidéos. On le voit à vélo s'approcher du camion, stationné sur un boulevard, puis circuler dans la ville avant de disparaître des écrans pendant 41 longues minutes. À 22h33, le 19 tonnes s'engage sur la promenade des Anglais, puis feu éteint. Il monte sur le large trottoir et fauche ses premières victimes. Des passants s'écartent, d'autres ont moins de chance. Le véhicule multiplie les embardées et cible délibérément des groupes. La vidéo montre qu'il fonce sur deux jeunes enfants alors qu'il peut les éviter. Puis il vise un stand de bonbons. 5 caméras filment la scène. Le terroriste semble connaître les lieux car il redescend sur la route à l'approche de pergolas sous lesquelles il ne peut pas passer. Les vidéos sans aucun son montrent aussi une voiture de police à sa poursuite, mais elle est gênée par la foule. On distingue un piéton et le pilote d'un scooter qui tente de s'interposer. Un peu plus loin, des centaines de personnes assistent à un concert. Beaucoup tournent le dos au camion. Des dizaines de malheureux sont happés, écrasé. Quelques secondes plus tard, le camion cale. Une caméra filme l'arrière du véhicule. Une fusillade éclate. Elle va durer une longue minute. À 22h37 et 44 secondes, Laouesh Boulel est neutralisé.
L'horreur en images et en silence. La journée sera difficile au procès de l'attentat de Nice aujourd'hui. Merci Frédéric Michel.
Allez, Europe 1, 8h09, direction Londres, la capitale britannique, comme suspendue, figée, le temps du recueillement.
Oui, les Londoniens ont jusqu'à lundi pour dire adieu à leur reine. Devant Westminster Hall, où le cercueil d'Elisabeth II est exposé, la file d'attente s'étire sur près de 8 km. Stéphane Place, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bon, vous vous trouvez exactement à Lambeth Bridge, face à Westminster, de l'autre côté de la Tamise, auprès de ces Britanniques qui ne manquent ni de patience ni de détermination.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. Parfois vêtus d'un gros blouson, une couverture de survie sur les épaules, les yeux rougis de fatigue et parfois portant un élégant costume, la cravate à peine dénouée. J'ai même croisé tout à l'heure une dame coiffée d'un charmant bibi noir, une voilette de deuil devant les yeux. Tous les styles, toutes les générations, mais un objectif commun, atteindre Westminster Hall pour s'incliner devant le cercueil et rendre cet ultime hommage à la reine. Dorothy fait partie de ces milliers de Britanniques qui font la queue depuis hier soir.
Nous avons rejoint la file à minuit 20 à la Tour de Londres.
Avez-vous eu froid ou faim cette nuit ?
En réalité, non. Nous nous sommes fait des amis. La nuit s'est déroulée dans le respect et le calme. Nous sommes heureux d'être ici.
Ça vaut le coup d'attendre ?
Sans aucun doute, la reine mérite cette attente.
Des Britanniques patients, calmes et deux Françaises également dans cette interminable file d'attente, Ludivine et Carline.
Depuis minuit, et là, il est quelle heure ?
On n'en peut plus.
Et ils disent que c'est encore long.
On a entendu 2 heures, 4 heures, 5 heures. Mais bon, voilà, il faut le prendre comme une expérience. Il y a une bonne ambiance.
Il ne fait pas froid, il ne pleut pas. Bah, je pense que c'est vraiment une icône, vraiment pour tout le monde. Oui, c'est un peu la grand-mère de tout le monde.
C'est historique, donc je pense que c'est important de le faire.
Et tout le long du parcours, ici au bord de la Tamise, des stewards en gilet jaune qui glissent un bonjour à ces anonymes, qui les guident, les encouragent avec un flemme imperturbable, un flemme so British.
Merci beaucoup Stéphane Place. Place, on pourrait presque
Stéphane
dire.
Stéphane Place,
oui, spécial
qui dit
Europe,
flemme, un flemme.
Oui, oui, voilà, voilà. Flegme anglais. Merci Stéphane Place.
Allez, faites preuve de flegme Stéphane, merci. Merci à vous aussi également Fanny. Dans un instant... Sur